Bien, rebonjour à tous. Je me présente Stéphane Marin. Je travaille donc au Grand Port Maritime à la direction du développement. Très rapidement, j'ai commencé ma carrière dans la marine marchande. J'ai navigué pendant une quinzaine d'années. J'ai rejoint par la suite, quand j'ai arrêté de naviguer, une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle Veolia Transport, devenue Transdev par la suite pour m'occuper du maritime. Je suis resté une dizaine d'années chez eux. Donc je suis plutôt transport de voyageurs. Mais j'ai beaucoup d'anciens collègues qui assistaient donc aux réunions de l'ORTM. Voilà, c'est un milieu qui m'est pas totalement étranger. Par la suite, j'ai rejoint une société nazarienne qui s'appelle IDEA, où je m'occupais. J'avais la direction maritime en fait du groupe. Voilà. Et pour votre information, j'ai rejoint le Grand Port Maritime il y a maintenant 18 mois, donc c'est assez récent. Mais je connais bien la région et le monde portuaire local, puisque j'ai été le président du manutentionnaire pendant 5 ans. Donc le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, je tiens bien à préciser que c'est une seule et même entité. Là, comme vous pouvez le voir sur cette photo, elle est assez emblématique, on reviendra dessus. Ce que vous voyez ici, c'est un navire en forme joubert, qui est une forme qui fait 350 mètres de long. C'est une des particularités quand même de Saint-Nazaire, c'est un véritable atout. Et ce que vous voyez dedans, c'est un navire poseur. Donc ce navire poseur a une particularité. C'est donc le navire hein, qui est venu pour poser les éoliennes du parc du banc de Guérande, qu'on retrouve en face de la Baule et de Guérande. 80 éoliennes. La particularité de ce navire, c'est qu'il a des pieds. Les grands tubes de couleur sombre que vous voyez, ce sont en fait des pieds qui descendent, ce qu'on appelle un navire jack-up, en fait, pour pouvoir se stabiliser quand il pose ses éoliennes en mer. Il vient toucher le fond, il se soulève au-dessus de l'eau. Et ce qui permet d'avoir la stabilité pour la grue énorme que vous voyez qui est à bord. Et sachez que pour information, quand il rentre en forme joubert, chaque opération, il prenait 4 éoliennes complètes. Donc 4 mâts, 4 nacelles et 12 pales. Donc 80 éoliennes, 20 voyages qui ont été faits l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, entre mai et mi-septembre, à peu près. Bon, on est aujourd'hui les seuls à avoir mis en place en France un parc éolien. Bon, Saint-Brieuc, ça y est, c'est parti. Le Tréport, on y va. Bon, on a quand même cette petite fierté. Ce qui a sous-entendu, bien entendu, ce que vous voyez derrière, un aménagement pardon, d'une plateforme de 13 hectares, juste en ce qu'on appelle en bord-raquet, à proximité immédiate de la Loire, où vous retrouvez le mécano, en fait, derrière. Alors, des éoliennes, c'est très simple, hein. Un mât, c'est trois sections de tubes qu'on met les unes au-dessus des autres. Une nacelle que vous voyez sur la gauche ici, là, sachez que ce sont des toutes petites nacelles par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc ce sont des 6 mégawatts produites dans l'usine General Electric qui est un peu plus loin. Je vous montrerai tout ça. Et ensuite, les pales. Donc c'est un véritable défi en fait logistique pour pouvoir placer tous ces éléments. Ça a généré pour information une centaine d'escales pour le port. Et des revenus conséquents, beaucoup d'activités, environ une centaine d'emplois créés pour la mise en place de ce champ. Donc le port de Nantes-Saint-Nazaire, je passerai assez rapidement les slides, j'en ai 52. Donc surtout, dites-moi quand il faut que j'accélère ou que je stoppe. Bon, premier port de la façade atlantique française. On est le quatrième port en fait français en termes de taille. Les comparaisons entre les ports maritimes en France se font sur le tonnage global, ce qui est tout à fait entre nous un peu une hérésie, puisque quand on compare Le Havre et Saint-Nazaire, Le Havre va faire, je parle sous le contrôle de Christophe, mais 70 millions de tonnes à peu près par an. On en fait 30 dans une année normale. Quand je dis normale, une année de Covid, c'est plutôt 18. Hein, voilà. Donc là, on est revenu à des niveaux tout à fait satisfaisants. La différence, en fait, les ports sont extrêmement différents. Un port comme Le Havre et Marseille sont principalement conteneurs. Dunkerque, une grosse partie vrac, mais conteneurs aussi. Nous faisons absolument tout. Donc c'est la force du port de Nantes-Saint-Nazaire, ce qui nous amène en fait à avoir une résistance aux variations en fait, et aux différentes crises qu'on peut connaître. Puisque quand un trafic s'écroule d'un côté, un autre peut continuer à rester. Quand je vous dis les trafics, on va rentrer dans le détail après, mais des hydrocarbures, des trafics, ce qu'on appelle fossiles, de l'énergétique. Et surtout, une des particularités, évidemment, on est le premier port en fait, français en termes d'agroalimentaire. C'est la porte d'entrée en fait, de l'alimentation animale. Et à côté de ça, une vocation industrielle très forte. On a évidemment des champions sur place, hein, que sont Airbus et les chantiers de l'Atlantique. On nommait qu'eux. Bon, une position absolument idéale, qui est une véritable porte d'entrée en fait, pour l'Europe. On ne va pas se comparer aux ports belges ou hollandais, hein, on va être clair là-dessus. Mais ce qui fait aussi notre force, c'est les congestions qu'on peut retrouver dans toute cette zone. Vous voyez le goulet d'entrée forcément pour atteindre la Belgique ou les Pays-Bas, qui est la Manche. Une des particularités qui est assez peu connue, c'est que quand vous passez Brest et que vous repartez vers le nord, vous rentrez en fait dans des zones à faible émission. L'équivalent des ZFE, ça avait été inventé pour le maritime avant les villes, où en fait des utilisations en fait de carburant très peu souffraient. Et ça nous amène aujourd'hui quand même un avantage où certains armateurs et chargeurs préfèrent passer par des ports en direct plutôt que d'avoir des surcoûts en fait de consommation sur ces zones-là. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Bon, une vue globale du port de Nantes-Saint-Nazaire, où vous voyez en fait une concentration d'entreprises et d'industries assez étonnante. On peut se comparer à Dunkerque sur un petit peu le panorama et l'environnement qu'on peut avoir ici. Et vous voyez quand même une très forte connotation industrielle. En partant de Nantes jusqu'à Laval, avec des très gros acteurs, pour ne nommer que Total Energy, Airbus et les chantiers de l'Atlantique. Et sans oublier un des acteurs qui va vraiment monter en puissance dans les années à venir, qui est Naval Group, juste à l'aval de Nantes, puisque là, il y a évidemment des grands projets que vous connaissez, notamment en termes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de porte-avions. Le port génère 30 000 emplois à peu près, dont 9 000 purement de portuaires, des activités en lien direct, mais après toute l'activité en fait des sous-traitants que vous pourrez retrouver. Donc ça, c'est une étude de l'INSEE hein, qui est récente. On voit que ça draine en fait une activité. Hein. La fonction première du grand port maritime, c'est le développement de l'activité économique du territoire. Et on voit que ça marche. Pour vous donner une idée du domaine portuaire, quand je l'explique à mes jeunes stagiaires, je leur dis, écoutez, c'est simple, vous partez du pont de Anne de Bretagne, vous allez jusqu'au sud de Saint-Nazaire, vous prenez une bande de 500 mètres de chaque côté de la Loire, c'est le domaine du grand port maritime. Bon, il y a des petites variations, mais voilà. Donc c'est un domaine propriété de l'État. Donc 2 700 hectares, dont un gros tiers en espace naturel qui est complètement figé. Où là, il ne se passera rien, bien entendu. La volonté du port est de se recréer au fur et à mesure sur des zones déjà viabilisées. Donc, on ne prend plus, c'est fini cette époque-là, en fait, le moindre hectare sur une zone environnementale. De toute façon, on ne peut plus le faire. Donc, voilà. Le patrimoine portuaire, donc 55 km de routes qui sont des voiries portuaires directement en fait gérées par le grand port maritime avec des accès restreints. Il faut savoir que dans une zone portuaire, vous le verrez tout à l'heure lors de la visite, vous avez beaucoup en fait de zones sécurisées en termes de sûreté. C'est un code international en fait qu'on appelle l'ISPS. Vous devez montrer patte blanche pour pouvoir y accéder. Donc on ne peut pas se balader comme ça en fait pour aller visiter le portuaire. 35 km de voies ferrées, 12 km de quais. Bon. En termes d'investissement, voilà, 2022, une année plutôt calme entre nous. Retenez qu'en fait, tous les ans, le port investit de l'ordre de 40 millions d'euros, à peu près. Dans ces 40 millions d'euros, il y en a une partie évidemment en développement. Mais on a un énorme poste en fait d'entretien du patrimoine, puisqu'on a un port avec beaucoup d'écluses et de ponts tournants, de ponts levants, qui nous amènent quelques petits problèmes. Parce que sachez qu'en moyenne, ces équipements ont plus d'un siècle, quoi. Donc forcément, malgré en fait un entretien permanent, on rencontre quelques petits problèmes de fiabilité. Mais bon, je ne suis pas le spécialiste, donc ne me tapez pas dessus là-dessus, mais c'est assez compliqué. Bon, pour vous donner une idée du trafic, 30 millions de tonnes, c'est une année normale. Nous avions prévu, pour information, en 2023, un atterrissage à 34-35 millions de tonnes, donc une belle progression, ce qui aurait été notre meilleure année depuis 20 ans. Malheureusement, on a connu quelques petits problèmes de mouvements sociaux ces 2 derniers mois. Sachez que ces mouvements sociaux, c'est de l'ordre de 4 millions et demi de tonnes en moins, avec les revenus associés pour le port. Dans le mix en fait, de trafic qu'on a chez nous, vous voyez le poids de l'énergétique. L'énergétique, c'est 70% du tonnage du port. Et les 30% étant tout le reste. 70% du tonnage, environ 75% de nos revenus. Alors on pourrait se dire, bon, très bien, quand on dit énergétique, du gaz, du pétrole, du charbon et les raffinés qui sortent de la raffinerie. Ceci amène forcément question pour les 20 ans à venir. L'avenir de la raffinerie, sous quelle forme? Alors, elle se transforme, certes, mais est-ce que ça va se. Aujourd'hui, il y a une grosse activité en fait, de la raffinerie qui part en fait sur du trafic export de raffinés pour alimenter l'Europe. Très bien. Des départs, évidemment, en oléoduc, mais heureusement en maritime aussi. Aujourd'hui, le plan de transformation de la raffinerie, c'est un plan qui s'appelle Horizon, qui vise à désulfurer en fait, leur carburant. Il ne s'en cache pas, ce sera pour une utilisation majoritairement nationale. Donc, quel sera l'impact en fait sur le trafic maritime derrière? On peut se poser des questions. Alors, la photo que vous avez ici, c'est évidemment 2022. Et vous noterez les 10 millions de tonnes de gaz naturel. Ce n'est pas une année normale. On sait tous pourquoi. Voilà, on a l'un des 4 terminaux en fait méthaniers français en service. Sachez que normalement, c'est plutôt l'inverse par rapport au pétrole brut. On est globalement à 10 millions de tonnes sur une raffinerie qui fonctionne toute l'année. La raffinerie a été arrêtée pendant 18 mois et elle a repris au mois de mai l'année dernière. Donc, on n'a qu'une demi-année en 2022 de fonctionnement de la raffinerie. On est plutôt à 10 millions de tonnes de brut et 5 millions de méthane. Pour information, les slots, c'est-à-dire les possibilités en fait de chargement sur le terminal méthanier, sont bookés jusqu'en 2035. Donc le directeur du terminal n'est pas du tout inquiet sur l'activité. Sont des prises en fait, sont comment dire, des réservations pour pouvoir amener leur bateau. Il est très confiant en fait sur la suite du trafic sur le terminal. Donc on a quelques années devant nous, à moins qu'il y ait une autre crise évidemment, qui rende en fait les achats en Europe plus compliqués. Produits raffinés 4 millions 3, c'est globalement ce qu'on fait tous les ans, donc c'est évidemment la sortie de la raffinerie. Alors, l'alimentation animale, je passe juste un petit peu de temps là-dessus, vous voyez 2 millions de tonnes, pour être très transparent avec vous, c'est du soja. Qui arrive et on importe en France tous les ans environ 3 300 000 tonnes de soja, dont 2 millions qui passent par Montoire. Donc c'est une place stratégique. Pourquoi Montoire? Parce qu'évidemment, on a la proximité de tous les éleveurs qui sont dans l'ouest de la France. Conteneur. Alors, conteneur, là vous avez une donnée en tonnes. Sachez qu'on se compare dans le monde du conteneur en termes d'équivalent 20 pieds. Donc les conteneurs de taille classique, on fait globalement 130 000 EVP, on appelle ça comme ça, ce qui est totalement ridicule. Voilà, donc je suis désolé pour mon confrère du terminal conteneur, il en est parfaitement conscient. Un port qui fonctionne en France sur le conteneur, c'est 3 millions de VP. Ouais. Alors, Alors, ce qui est la même question, si vous voulez, c'est, on en plaisante un petit peu entre nous. Heureusement, ce terminal a d'autres sources hein, dans le trafic conventionnel, l'alimentation de l'usine General Electric. Donc voilà, il n'y a pas péril à la demeure. Par contre, là où ça amène question, c'est que les études montrent que 70% en fait, des conteneurs à l'export en Pays de la Loire passent par le Havre ou Anvers, alors qu'on a un port dans la région. Donc, pour votre information, on a lancé avec la région, le département, la Carène, Nantes Métropole, une action de promotion portuaire où on va dans les CCI rencontrer les chargeurs. On l'a fait à Angers, Laval, on va aller à La Roche-sur-Yon et au Mans pour essayer de rappeler quand même à ces exportateurs qu'il y a quand même une solution écologiquement beaucoup plus intéressante et même en termes de transit time. Puisque vous verrez le détail après, mais on a des lignes régulières qui partent de partout dans le monde au départ de Montoire. Les escales, 2500 escales en 2022, sachez que c'est plutôt 3000 en année normale. Ça, c'est l'impact en fait de l'impact en fait de l'arrêt de la raffinerie. On est reparti sur des tendances classiques cette année. 730 trains de marchandises, c'est assez peu. Sur nos 35 km de voies ferrées, deux gros clients, hein, principalement, qui pèsent à peu près 90% en fait de ce trafic, que sont les deux usines Cargill, qui s'approvisionnent en colza et en tournesol, et évidemment les silos d'Invivo à Nantes et sur Montoire de Bretagne, qui nous ramènent en fait du blé du centre Val de Loire, principalement. Oui. Alors, il y a un projet aujourd'hui de remonter en fait remonter et descendre hein, des conteneurs, enfin de créer une liaison en fait ferroviaire entre Le Havre et Montoire. Le Havre est un petit peu victime de son succès. Il y a des problèmes de congestion. Les chargeurs n'aiment pas ça, évidemment. Les conteneurs ont tendance à rester facilement 15 jours en fait sur les parcs avant de pouvoir embarquer. Chez nous, on est plutôt sur 48 heures. Donc voilà, il faut faire savoir en fait ce genre de choses. Et l'idée étant de remonter en fait des conteneurs vides, ce qui intéresse toujours en fait les armateurs, de Montoire vers le Havre. Nos activités, bon, ça vous donne les grandes tendances, hein. 5 millions d'agroalimentaires, l'industriel, construction, recyclage. Quand on dit recyclage, c'est la ferraille. Je reviendrai dessus, mais c'est un véritable trafic qui est en train d'exploser en fait au départ de Nantes et de Montoire. Et enfin l'énergétique, vous voyez 20 millions sur nos 30 millions, c'est assez conséquent. Nos sites portuaires, pour vous donner à peu près les grandes masses, vous voyez que Nantes pèse globalement, en incluant en fait le silo de Roche-Maurice, 7 à 8% en fait du trafic total du port. Alors, quand on parle à les Nantais, ils nous disent le port n'existe plus. Bah oui, parce qu'ils ne le voient plus. On ne charge plus au quai de la Fosse, clairement, ni au quai des Antilles. On a fait d'autres festivités sur le regard à banane. Mais voilà, et bah non, il faut juste aller un petit peu plus loin. Puis vous regarderez de chaque côté du pont de Cheviré. On fait, pour vous dire, côté Cheviré, 400 000 tonnes en année classique. Ce trafic sur Nantes, c'est pour moitié de la ferraille à l'export, le reste se partageant entre du bois et des engrais. Les engrais ayant connu avec la crise énergétique une mutation énorme, on importait en fait des ammonitrates. Le prix de l'ammonitrate à 95%, c'est le prix du gaz. Donc forcément, il y a eu un coup d'arrêt l'année dernière et ça a été remplacé par de l'urée. Donc voilà, on conserve en fait nos tonnages dessus. Le reste en fait de ce tonnage est lié à l'export en fait de céréales du silo de Nantes, qui est un silo absolument conséquent. Hein. Il faut le savoir, c'est l'un des plus gros silos français. Et une bonne année, on fait 1 million, 1,2 million d'export en fait au départ de Nantes, qui est extrêmement bien desservi de manière ferroviaire. Et bon, malheureusement, on a connu quelques années de récoltes catastrophiques. Mais voilà, retenez à peu près 1 400 000 tonnes sur les sites nantais. voilà, 500 escales, 8% à peu près du trafic total. Alors, je passe rapidement, hein, mais n'hésitez pas à me stopper. Donge, bon, bah, que tout le monde connaît, deuxième raffinerie de France, quand même, des investissements absolument énormes. Deux phases d'investissement récentes, hein, évidemment le contournement de la raffinerie par la voie ferrée. Le deuxième étant en fait la modification, la mutation en fait de cette raffinerie. On pourra en parler longtemps, mais voilà, je vous parlais de nouveaux carburants en fait qui vont être produits. C'est la condition de la survie de cette raffinerie et accessoirement aussi de la production d'hydrogène qui est en cours en association avec Air Liquide. Un petit mot, sachez que juste à côté de cette raffinerie, il y a un terminal qui s'appelle le terminal SFDM, la société française Donges Metz, avec un oléoduc en fait qui va jusqu'en Allemagne. Et beaucoup de bateaux en fait déchargent ici pour alimenter l'Allemagne. En brut. C'est du raffiné, oui, du raffiné, excuse-moi. Oui, c'est que du raffiné, je dis une bêtise. Le brut étant déchargé juste à côté. Bon. Très bien. Saint-Nazaire, une vue donc assez connue. La particularité de Saint-Nazaire et sa force, c'est, hormis l'activité industrielle qu'on peut avoir, sont ses bassins. Les bassins de Saint-Nazaire, ça peut paraître peut-être un petit peu dépassé, c'est extrêmement pratique parce que ça vous permet en fait des opérations de chargement et déchargement sans avoir de problème en fait de marnage lié à la marée. Donc ça intéresse en fait beaucoup les manutentionnaires pour tout ce qui est en fait transport de colis lourds. Sachez qu'un paquebot, comme on peut voir à l'écran ici, est composé de pratiquement 75% de pièces qui sont fabriquées à l'extérieur en fait de la zone portuaire. Et des pièces assez conséquentes, on verra sur les quais actuellement, des cheminées entières, des sections en fait de coques, des choses comme ça. Et l'intérêt des bassins, c'est de pouvoir les amener à proximité des chantiers. Des solutions logistiques. Le terminal conteneur. Bon, je vous ai dit qu'effectivement, ce n'était pas le plus grand de France. Sachez quand même une des particularités de ce terminal, c'est on est limité en fait en termes de taille. On pourrait penser que c'est lié en fait à la longueur des quais. Non, c'est lié à la hauteur disponible sous le pont de Saint-Nazaire. Les bateaux sont de plus en plus gros et aujourd'hui, vous avez une limite en fait en termes de tirant d'air de l'ordre de 55 mètres. 55 mètres, c'est une taille d'un navire qui fait à peu près 8 900 conteneurs. Donc aujourd'hui, les nouveaux navires qui sortent en font 24 000. On ne touchera jamais ce trafic-là. On ne peut pas. Il y a contrainte du pont, tout bêtement. Des solutions logistiques. Alors, ce que vous voyez, ce sont des entrepôts métallo-textiles qui ont été construits par le port pour des clients directement. Sachez qu'on en a fait 5 cette année. Et quand on passe le pont actuellement, on les voit, vous êtes juste au nord du terminal RoRo, on les verra tout à l'heure. Ce sont des belles cathédrales. Les services conteneurs, je passe rapidement, mais sachez qu'on a trois lignes régulières en fait qui partent directement de Saint-Nazaire. Deux principales, qui est en fait l'Afrique de l'Ouest. On a la dernière escale avant d'arriver en Afrique de l'Ouest. Et évidemment les Antilles. Tout ce qui part aux Antilles, en fait, passe le dernier port touché est Montoire. Donc aussi bien intéressant en fait à l'export qu'à l'import. Le roulier, alors on en parle peu. Sachez que sur le terminal roulier de Montoire, qu'on va voir tout à l'heure, c'est environ 100 000 véhicules en fait qui transitent aussi bien en import qu'en export. La prévision pour cette année, c'est 160. Donc 60% d'augmentation, c'est lié à la reprise en fait de la production en fait automobile. Les problèmes de composants sont à peu près soldés. Donc ça repart très fort. Ça repart tellement fort que les terminaux. On bénéficie toujours des problèmes de nos concurrents, on va dire, hein. Aujourd'hui, les terminaux en fait rouliers du nord de l'Europe sont totalement saturés, quoi. Donc il y a l'effet de vase communicant et ça nous ramène du trafic. On a aussi une chance, c'est d'être à proximité en fait, du nord de l'Espagne. On retrouve beaucoup d'entreprises automobiles. Et là, effectivement, le transit time, hein, c'est 1 jour et demi. Donc ça intéresse forcément les Stellantis et autres Renault. Swar Diaz, bon, sachez que, opérateur historique, on fête aujourd'hui les 50 ans cette année de la ligne Montoir-Vigo. Donc ce qu'on appelle un client fidèle chez nous, donc un armateur espagnol. On va jusqu'à Tanger et Casablanca en partant de Montoir. C'est du transport de remorques sans passagers. À la différence de ce qu'on avait pu connaître sur le Montoir Ayron à l'époque. LD Seaplane, juste un petit focus là-dessus. LD, c'est Louis Dreyfus. C'est en fait comment dire, la flotte qui est dédiée au transport des pièces Airbus. Une des particularités de notre territoire, c'est d'avoir quand même à proximité deux usines Airbus, une à Nantes et une à Saint-Nazaire. Nantes spécialisée dans la fabrication des réservoirs centraux de tous les avions d'Airbus. Et les pointes avant, enfin la partie avant du fuselage sur Saint-Nazaire. Un transport de pièces entre Nantes pardon, et Saint-Nazaire par barge fluviale jusqu'à la fin de l'année dernière. On est revenu sur la route pour une période indéterminée. La volonté d'Airbus étant d'avoir une offre en fait fluviale zéro carbone, quoi, clairement. Bon. On sait qu'effectivement l'opérateur est en train d'y travailler, donc on espère revoir en fait ce trafic. C'était l'ordre de 140 en fait barges pluviales par an, ce qui est pas rien, ce qui permet de désengorger en fait la Côte-d'Or, hein, clairement. On s'est tous retrouvés derrière un convoi exceptionnel, donc bon, je pense que tout le monde est preneur. Bon, sachez une chose qu'on sait peu, c'est que le hub mondial maritime d'Airbus est à Saint-Nazaire. Donc vous le verrez tout à l'heure en allant sur le roulier. 80% des pièces Airbus, on a toujours l'image du Beluga, hein, qu'on a tous vu, 80% des pièces Airbus est transportée par voie maritime. Avec, vous voyez, la ligne bleue que vous voyez en dessous, c'est ce qu'on appelle la route du laitier, la Milk Run, qui fait le tour de toutes les usines Airbus d'Europe et qui remonte à la fin jusqu'à Hambourg. Avec un départ particulier, on est très fiers depuis l'année dernière, c'est le Montoir Mobile. Mobile en Alabama, on a une ligne tous les 15 jours qui va directement aux États-Unis alimenter l'usine d'assemblage américaine. Assez peu de retours à l'export, soyons honnêtes. Les bateaux rentrent un peu à vide. Bon, on travaille sur le sujet, mais avec l'armateur. Bon, les infrastructures d'accueil, vous voyez pour illustrer hein, l'empennage directement sur le RoRo. Tout ça est chargé en fait par voie roulante sur les navires. Les escales des navires Airbus, c'est entre 3 et 4 par semaine. Le terminal roulier qu'on va visiter tout à l'heure, bon, voilà, c'est un terminal en extension permanente dessus, avec ce qu'on aperçoit au milieu, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est l'usine General Electric, bon, qui s'est retrouvée en plein milieu d'un terminal roulier, mais bon, je n'entrerai pas dans le débat. Ce qui nous amène aujourd'hui beaucoup d'activités, en fait, hein, clairement, à la fois de l'emploi, bien entendu, mais beaucoup d'activités maritimes. Les pièces sont principalement fabriquées, soyons très clairs sur le sujet, en Chine, les grosses pièces en fait de fonderie qui permettent de faire ces turbines en fait d'éoliennes. Elles sont déchargées à Montoir, c'est assemblé en fait dans l'usine, et après, on va commencer un trafic export dans les 10 jours. Je crois que le premier navire arrive. Sont des opérations assez complexes. Ces pièces font 700 tonnes chacune et ces navires vont en prendre à peu près une dizaine chargées en 2 jours et on part sur un navire et demi par semaine, par mois, excusez-moi, non, par semaine ça va être un petit peu plus tard, mais par mois et sous 6 mois on devrait monter à 3-4 navires par mois. Donc là ils sont en train de monter en puissance, ça va nous amener beaucoup d'activités. Bon, le roulier, je vous en ai parlé. Alors, le conventionnel, juste en termes de jargon, dans les trafics en fait, maritimes qu'on retrouve partout, du conteneur, du vrac solide, du vrac liquide, du roulier, ce qui est sur roue, bien entendu, et le conventionnel, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas ça. Donc, imaginez les moteurs MAN qu'on va retrouver sur Saint-Nazaire. Des pièces de paquebot, des turbines d'éoliennes, des choses comme ça. C'est une des spécificités de Saint-Nazaire. On est reconnu pour notre expérience là-dessus. Ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est une section en fait de mât d'éolienne. Et sur la droite, une pale. Les pales en fait du champ en place font 75 mètres à peu près. Les prochaines sont à 120 mètres. Oui.
Juste comme je suis maître du temps,
oui.
Est-ce qu'on peut donner encore 5 minutes, ça
5 minutes, pas de problème.
Merci.
Donc j'accélère un peu. Bon voilà, hein, vous voyez ce genre de pièce. Bon, sachez qu'à Nantes, on fait aussi du conventionnel. Allez, je passe 3 minutes sur ce sujet. C'est le grand projet en fait du grand port maritime. On a appelé EOL. Ce que vous voyez, alors c'est une vue d'artiste, hein, mais ce quai qui est là aujourd'hui n'existe pas. Il y a un quai désaffecté qui va servir de base à faire ce quai. Et comme vous pouvez le voir, le but du jeu est d'avoir une station, en fait, ce qu'on appelle d'intégration de l'éolien flottant. La grosse différence entre l'éolien flottant et l'éolien posé, c'est que l'éolien posé, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous mettez un monopieu enfoncé dans la terre, dans des fonds d'à peu près 30 mètres. Vous arrivez, puis après vous posez l'éolienne dessus. L'éolien flottant, on ne peut pas le faire parce que le problème, c'est que le flotteur, évidemment, bouge. Donc, mettre l'éolienne sur un flotteur en mouvement, c'est compliqué. Donc, ces opérations doivent se faire à quai. Ça sous-entend pour nous de faire un quai d'environ 700 mètres avec 14 mètres de tirant d'eau le long du quai. C'est faisable. Et ensuite, on fait venir des flotteurs qui seraient construits ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la place, en fait, sur Saint-Nazaire. Ils sont remorqués, ils arrivent et après c'est une chaîne d'assemblage. Le flotteur arrive, il est coulé le long du quai, il vient se poser en fait dans le fond pour être parfaitement fixe. Et après on a une grue absolument géante puisque qui va aller en fait poser les mâts à 150 mètres de haut, un colis de l'ordre de 800 tonnes et ensuite mettre les pales. On remet en flottaison le flotteur, il est pris en charge par un remorqueur et il va sur le champ. Et ça, l'idée, c'est d'en faire 6 par mois. Donc, ça répond aujourd'hui à la demande en fait, de la loi énergétique. Donc, un investissement conséquent de l'ordre de 150 millions, ce qui est à peu près le prix de 12 éoliennes. Donc, vous voyez que si on en fait 6 par mois, c'est pas un sujet, en fait. C'est pas comment dire, à la hauteur du problème. Bon, le vrac. Voilà, bon, les acteurs des filières vrac et la filière énergétique dont je vous ai parlé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une toute petite éolienne. Clairement. Bon, après, je rentre dans le détail. Le ferroviaire. Bon, la réparation navale, hein, bien entendu, sachez que le Grand Port offre des solutions aux entreprises de réparation navale avec nos formes dans Saint-Nazaire et notamment aussi la forme Joubert qu'on verra tout à l'heure. Et donc, juste un mot sur la dynamique, en fait, Opportunity pour conclure, je vous rassure. Les acteurs, en fait, de la place portuaire ont décidé de se mettre ensemble plutôt que de faire cavalier seul pour faire la promotion de leurs activités. On se déplace, ce qu'on appelle en meute, directement. La semaine prochaine, on sera à Wind for Good. La semaine d'après, on sera à Rotterdam pour le salon du conventionnel. On enchaîne, en fait, systématiquement tous les salons possibles et on fait venir les acteurs concernés par ce type, le conventionnel, les gens qui font du vrac ne vont pas venir sur ce salon-là. Il y en aura un autre après pour eux, ce qui permet, ce que vous voyez à l'écran, effectivement, le maire de Saint-Nazaire, Madame Morancet de la région, la préfecture aussi, l'Union maritime, enfin tout le monde est là, quoi. Bah, je vous en prie.
Quelques questions, oui. Sur les éoliennes flottantes, du coup, elles sont assemblées à quai et après elles peuvent être transportées.
Oui, et les remettre en flottaison une fois que tout est installé dessus et c'est remorqué ensuite. Voilà. On a une des particularités en fait sur Saint-Nazaire. Pourquoi on le fait à Saint-Nazaire en fait? Pourquoi ce projet-là serait fait à Saint-Nazaire? Comme vous voyez sur la carte, hein, on est parfaitement au milieu. La chance qu'on a, nous, en France, c'est d'avoir un plateau continental. Ces éoliennes flottantes peuvent être mises dans des profondeurs de l'ordre de 200 mètres. Après, ça devient encore plus compliqué, quoi. Mais c'est un double intérêt, en fait. Déjà, elles ne sont pas visibles de la côte. Ce qui peut, voilà, la pollution visuelle, c'est une chose qui arrive. On connaît ça dans la région. Et surtout, les vents sont plus réguliers au large. Donc, on se retrouve, en fait, avec des puissances de l'ordre de 20 mégawatts. Celles qui sont devant la Baule, c'est 6. Donc, on en met moins, plus loin, mais elles sont plus puissantes.